1914, Laurence Giordano, Sandrine Mercier.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez dans Comment 14, votre série de l'été. On suit des destins de gens ordinaires qui vont vivre des expériences intimes tout à fait nouvelles dans la Grande Guerre. Et avec nous, des historiennes aujourd'hui pour nous raconter comment la guerre bouleverse les couples, les liens affectifs et conjugaux. Et que se passe-t-il à l'échelle intime? Pour en parler de cette histoire sociale de la guerre, nous avons deux historiennes avec nous. Clémentine Vidal-Naquet, enseignante et spécialiste des liens conjugaux dans la Grande Guerre. Vous allez publier en octobre 2014 donc votre thèse et ça va s'appeler « Couple dans la Grande Guerre, le tragique et l'ordinaire du lien conjugal » aux éditions Belles Lettres. Également « Correspondance conjugale dans l'intimité de la Grande Guerre » chez Robert Laffont. Avec nous également Dominique Fouchard, vous êtes aussi enseignante et vous avez publié « Le poids de la guerre, les poilus et leurs familles après 1918 » aux presses universitaires de Rennes et vous travaillez sur la question du retour, donc des retrouvailles quand cette guerre est fini. Alors la guerre provoque un grand remue-ménage dans les couples, c'est bien sûr une période de séparation, de grand malheur et de deuil, mais c'est aussi propice à des rencontres inattendues et improbables. Daniel Ayart est le maire de la commune d'Illy. On est à côté de Lille, dans le nord de la France. Et alors cet homme est connu parce que c'est bien sûr une personnalité locale, mais c'est aussi par son histoire de famille, car son grand-père était un soldat canadien qui a épousé une fille du pays.
Je m'appelle Daniel Ayart, je suis le petit-fils de Léon Weber, soldat canadien qui s'est marié avec Rosalie Planck qui habitait ici au village.
Vous êtes toujours considéré comme le petit-fils du Canadien ici ?
Oui, c'est toujours... mon grand-père était très connu puisque c'était des gens très serviables, donc c'est toujours la maison du Canadien, la maison où on va, c'est toujours... où mon neveu habite maintenant, c'est toujours la maison du Canadien.
Donc votre grand-mère, c'était une fille d'Illy, une fille du village ?
Oui. Les gens sont partis du village d'Illy à la guerre 14 parce que les Allemands arrivaient. Ils sont partis avec ce qu'ils avaient, quoi, ce qu'ils avaient pu prendre dans leur petite charrette et puis ils ont tout quitté quoi. Et quand ils sont revenus, le village ici avait été complètement rasé quoi. Donc et ils ont évacué à Lières, un petit village à côté de Lillers. Mon grand-père était il combattait à Vimy en 1916-17. C'était le lieu de repos, donc il a connu ma grand-mère à Lières à côté pendant les périodes de repos qui n'allaient pas au front quoi. C'était ce qu'on appelle le repos du guerrier quoi. Donc
Et votre grand-mère, elle s'appelait comment et elle avait quel âge alors ?
Elle s'appelait Rosalie et elle avait 24 ans, 25 ans.
Et la rencontre, vous en savez quelque chose ? Comment elle s'est faite entre Rosalie et votre...
Ils n'ont jamais fait tellement de confidences là-dessus.
Donc ils se sont rencontrés à ce moment-là, en 1917
hein ? Oui, 1916-17, quoi, je ne sais pas dire au juste.
D'accord. Et...
Mon grand-père avait été blessé à la guerre, blessé, il a eu un doigt coupé, puis gazé 8 jours avant l'armistice. Quoi. Donc après, ils sont repartis, lui est reparti à Londres, et il a été démobilisé au mois d'août 1919. Donc ma grand-mère se posait bien des questions de savoir s'il allait revenir ou pas. Quoi.
Mais ils n'étaient pas encore mariés là ?
Non.
C'était son fiancé.
C'était son fiancé, oui. Ils se sont mariés dès qu'il est revenu ici, quoi. Et après, bon, il a fallu 10 ans de présence sur le territoire français pour qu'il puisse être naturalisé. Ça plaisait pas, disons, à la mère de ma grand-mère. Ça lui plaisait pas qu'elle se marie avec un étranger, disons. C'était quand même un étranger. Hein. Il ne parlait pas français à l'époque, quoi. Il parlait allemand et anglais couramment, mais pas français, quoi. Donc.
Et alors, Rosalie, elle lui parlait comment ?
Vous savez, ça, le langage de l'amour, on se fait toujours comprendre. Hein.
Ouais.
Ça, c'est les médailles. J'ai d'autres petits objets qui sont aussi intéressants. Ça, vous voyez, ça, c'est c'est un crochet pour, vous savez, les guêtres qu'on appelle les guêtres, pour les accrocher. Et il avait gravé le prénom de...
Rosalie. Il a même gravé une fleur, une sorte de marguerite, avec écrit Rosalie dessus.
Bon, mais il appelait son épouse Rosalie.
Il n'arrivait pas à dire Rosalie, alors...
Peut-être, ou alors c'était un diminutif qu'il avait trouvé comme ça lui-même, quoi. Donc je sais pas, mais il appelait toujours Rosalie.
Et alors qu'est-ce qu'ils font une fois qu'ils sont installés tous les deux?
Bah, ils continuent, recultivent les terres, tout a été remis en renivelé et tout, parce que tous les trous d'obus, tout était là, comme ça, tous les terrains ont été renivelés, ils ont repris leur parcelle de terrain qu'ils avaient, parce qu'à l'origine c'était une ferme, quoi. Donc ils ont recultivé leurs terres, peut-être un an, deux ans, trois ans après la guerre, une fois que tout aura été remis en état de culture, quoi.
C'est-à-dire que votre grand-père Léon, le Canadien, il s'est mis à travailler les terres de la famille de sa femme.
Oui, c'est ça.
Et ils ont eu combien d'enfants alors ?
Ils ont eu deux filles. Oui. Elles s'appellent Annie et Carmen. Ma mère, c'était Carmen Marie Weber.
Ce ne sont pas des prénoms à consonance canadienne ou anglo-saxonne.
Non, Marie, c'était avec un Y quand même, ma mère. Donc, c'était. Et moi, j'ai continué à un peu la tradition parce que moi, j'ai un fils qui s'appelle Michael, le prénom de l'arrière-grand-père.
Et à votre avis, vous qui avez connu votre grand-père, donc canadien, qu'est-ce qui fait que lui est resté alors que tant d'autres sont partis?
Ben, c'est certainement l'amour, puisqu'il y a eu le choix aussi de repartir. Mais après, quand il était à Londres, ma grand-mère, je sais qu'elle était très inquiète qu'il ne revienne pas par ici.
Votre grand-père n'est jamais retourné, il n'a jamais emmené Rosalie au Canada.
Elle n'a jamais voulu y aller parce qu'elle avait peur qu'il reste là-bas et qu'il ne revienne pas. Ça, il voulait repartir. Et après, elle n'a jamais voulu. Quoi. Donc
il n'a jamais plus revu le Canada.
Il n'a jamais plus revu son père, non.
Et il est mort enterré ici ?
Il est mort enterré ici à Illy en 1968. Oui.
Et on peut dire qu'ils ont bien vécu ici ?
Ben, ils ont vécu heureux. Après, je ne sais pas, ils n'ont pas eu beaucoup d'argent, mais est-ce que l'argent fait le bonheur ? Ils ont vécu heureux.
Comme en 14 sur RFI.
Rosalie et Léon, une histoire possible avec la guerre, la proximité du front, Dominique Fouchard, ça provoque aussi des rencontres inattendues avec ces mouvements de troupes, ces concentrations d'hommes de tous les pays du monde.
Des rencontres inattendues, oui, avec des hommes qui viennent d'ailleurs ou avec des hommes plus jeunes. Alors on a à peu près, je crois, tous en tête, par exemple, le Diable au corps de Radiguet, hein, d'après-guerre, qui a été incarné par Gérard Philippe. Si beau au cinéma, qui raconte bien l'histoire de ce jeune François qui vit une passion amoureuse avec Marthe, dont le mari est au front. Donc effectivement, il y a des rencontres qui sont très inattendues, et puis qui se fabriquent donc beaucoup plus loin, hein, parce que ces rencontres inattendues, ça peut être avec des hommes plus jeunes, avec des hommes plus vieux, avec des étrangers, etc. Ce qui est intéressant dans le témoignage qu'on vient d'entendre, il y a plusieurs éléments. Il y a d'abord l'histoire de cette très longue démobilisation, et puis l'autre élément, c'est la question du mariage avec un étranger. Alors je crois qu'il y a plusieurs choses à avoir à l'esprit là, et entre autres éléments, sans doute le fait que, à l'époque, et je crois que c'est jusqu'en 38, lorsqu'une femme française se marie avec un étranger, elle n'est plus de nationalité française. Donc du coup, évidemment, dans une politique qui est une politique extrêmement nataliste après la guerre, où il faut refaire des enfants, il faut que la population française retrouve un niveau d'avant-guerre, et bien plus encore, hein, puisque c'est une véritable obsession nataliste après-guerre, perdre une femme dont les enfants seraient donc pas des petits Français, ça vaut pas tellement le coup.
Alors, on voit que Léon grave le nom de sa fiancée aussi, Rosalie, donc ça s'est transmis dans la famille, ça c'était aussi un geste, il y a les correspondances, Clémentine Vidal-Naquet, il y a aussi toutes ces petites preuves d'amour, alors qu'on est quand même sur le front.
Oui, tout à fait, en fait, on échange énormément de lettres, mais aussi beaucoup d'objets. Alors, on peut offrir des fleurs qu'on va cueillir dans les tranchées, on peut envoyer énormément, par exemple, de bagues. Donc ça, c'est de l'artisanat des tranchées. Là, c'est un exemple aussi dans le cas de Rosalie et de son Canadien. Finalement, avec tous ces objets de mort, avec les douilles d'obus, avec l'aluminium des fusées d'obus, et ben avec ces objets de mort, on dit l'amour. On envoie. Alors on envoie aussi des mèches de cheveux. On échange des photos.
Finalement, on se dit beaucoup plus de choses quand on est séparés.
Je pense qu'effectivement, en tout cas, l'historien, disons, a accès à ce qu'exprime. Les couples, peut-être qu'ils ne se le disent pas quand ils se voient, mais ça, on ne peut pas véritablement le savoir.
Et quand vous parlez des photos, c'est vrai que quand on était dans la Somme pour faire le reportage avec Laurence, on est tombé à Vignacourt sur une ferme où à l'époque, donc un couple aussi s'était installé pour prendre en photo tous ces soldats qui venaient, beaucoup de soldats australiens, et qui aujourd'hui, justement, ces soldats prenaient ces photos pour les envoyer à leur famille ou à leurs amoureuses. Et il y avait un vrai commerce autour des photos.
Mais c'est très important parce qu'il faut imaginer qu'on est donc sur le temps long de la guerre et que prendre des photos de soi, c'est aussi montrer les transformations. Et c'est aussi un gage de bonne santé. En fait, dans les correspondances, très souvent, la femme demande à voir, à recevoir des photos, et elle observe et elle scrute en disant « Ce regard, je ne le connais pas, tu changes sans moi, tu as grossi, je ne veux pas que tu reviennes avec la moustache. » Enfin, l'importance en fait des détails aussi physiques est présente à travers ces photos.
Alors comment dans la guerre naissent aussi des histoires d'amour ? Vous avez peut-être entendu parler des marraines de guerre, ces femmes qui écrivent aux soldats pour leur remonter le moral. Et bien, c'est encore une histoire de correspondance, hein, mais qui va déboucher sur une rencontre. Et ça, c'est l'histoire de la famille de Christophe Corbel.
Comment 14 ?
C'est l'histoire de mon grand-père, Jean Erzbischoff. Il est originaire de Luxeuil-les-Bains, en Franche-Comté. Et donc, en 1914, il fait son service militaire à Belfort. Donc, la guerre le surprend et donc il part au front, en fait, dans les Vosges, du côté de Mulhouse. Et à Noël 1914, en fait, l'un de ses hommes reçoit, en fait, un courrier d'une marraine de guerre. Donc c'est des courriers qui sont envoyés par des femmes. Donc il reçoit en fait en décembre 1914, enfin l'un de ses hommes reçoit en décembre 1914 un colis avec une lettre, accompagnée d'une lettre. Et en fait c'est une marraine de guerre qui envoie à ce militaire ce courrier et ce colis. Mon arrière-grand-mère en fait a écrit à ce militaire, et ce militaire en fait était illettré, donc il n'a pas été capable de répondre. Il a demandé en fait à mon grand-père de répondre à cette dame qui habitait à Paris dans le 9e arrondissement. Donc il lui a répondu, et à l'occasion en fait d'une permission en 1915, il a rencontré cette famille. Donc il est allé les voir, et cette famille avait un fils et une fille, et donc c'est là qu'il a rencontré en fait sa future épouse.
Votre grand-père, il avait quel âge donc en 1915?
Alors, mon grand-père, il avait 21 ans. En 1914, il avait 21 ans.
Et Thérèse, votre grand-mère ?
Alors, elle était née juste avant le siècle dernier, donc en 1899, donc elle avait 15 ans. Alors, ils se sont mariés juste en janvier 1919, juste après l'armistice, quelques semaines après l'armistice, à une époque qui était un petit peu compliquée, parce que c'était la fin de la guerre. Mais voilà, ils se sont mariés. Est-ce qu'ils ne pouvaient pas attendre ou on n'en sait rien. Mais en tout cas, c'était probablement une façon de s'ouvrir vers l'avenir et de pas rester effectivement dans cette période de guerre.
Donc c'est grâce à la guerre en fait qu'ils se sont rencontrés.
Alors c'est effectivement grâce à la guerre et dès le début de la guerre, on va le dire.
Et grâce aussi donc à ces fameuses marraines de guerre qui ont donc provoqué des correspondances. Dominique Fouchard, est-ce que vous pouvez nous rappeler quels étaient leur rôle ?
Alors, les marraines de guerre, l'idée est conçue très tôt. C'est-à-dire que dès la fin de l'année 14, l'idée des marraines de guerre se met en place au départ pour s'occuper des soldats qui n'avaient pas de famille. Et la première association qui s'appelle la famille du soldat, elle apparaît dès 1915. Donc c'est vraiment très 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 rapide. Donc c'est une œuvre patriotique et au départ c'est vraiment des dames patronesses. C'est très moral. Hein, donc mais très rapidement cette œuvre patriotique morale va devenir ce que Jean-Yves Le Naour a appelé un flirt épistolaire. L'expression est assez jolie et les associations sont absolument débordé. On voit bien que l'Écho de Paris est débordé par l'afflux de demandes de contact avec les marraines de guerre. On pourrait dire que c'est les marraines de guerre dans leurs échanges avec les soldats. Eh bien, on a un jeu amoureux dont les soldats sont totalement privés au front et qui va donc permettre petit à petit de faire passer cette frustration-là. Et on voit bien aussi que dans cette expression de marraine de guerre, quand on dit que c'est très moral et très patriotique, le vocabulaire est très religieux. On le voit encore mieux en Angleterre, parce que les marraines en Angleterre, les marraines de guerre, c'est les godmother. Mais en fait, très vite, ces marraines, elles vont un peu inquiéter. Elles vont un peu inquiéter parce qu'il y a une forme de liberté dans les cris, un jeu sensuel, sexuel, qui inquiète un petit peu autant l'armée que les tenants d'un ordre moral qu'on voudrait garder impeccable.
Et là, quand Christophe témoigne de son arrière-grand-père et de son arrière-grand-mère qui se marient donc très vite à la fin de la guerre, est-ce qu'on a assisté comme ça à une courbe exponentielle de mariage à la démobilisation ?
Oui, il y a un phénomène très net de rattrapage après la guerre. Et c'est vrai tout autant pour les mariages que pour les divorces.
Love letters.
C'était Love Letters, Métronomie, les couples dans la guerre dans Comment 14. Une histoire intime, se séparer, se rencontrer et se retrouver. Et à la fin de la guerre, passer la joie des retrouvailles après une longue attente. Pour certains couples, c'est bien difficile.
Madame, pensez, j'ai 18 ans et mon fiancé qui revient de la guerre en a lui 22. Lui si joyeux, aimant la danse, le tennis, le bruit, les jeux, le voilà tout pensif. Il ne veut plus que je danse, il est plongé tout le jour dans des livres de philosophie, d'économie politique. Il veut que je fasse la cuisine, le ménage. Il parle d'aller vivre à la campagne, d'élever des poules, des lapins, de cultiver des légumes et des fleurs. Mais je déteste ça, moi, madame. Et pourtant, je l'aime. Seulement, il a tellement changé que je ne le comprends plus.
Comment 14, Laurence Giordano, Sandrine Mercier.
Dominique Fouchard, il semble que pour Ginette, son mari soit devenu comme un inconnu après la guerre qu'il a vécue.
Alors évidemment, les retrouvailles sont extrêmement diverses. Il y a des couples qui ont fortifié leur amour, mais il y a aussi, pour un certain nombre de grosses difficultés, on le voit avec Ginette. Ginette, ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle ne reconnaît plus l'homme qui revient. Et donc on a un éloignement du fait des expériences qui ont été vécues de la part de son compagnon, mais aussi de la part de Ginette, parce qu'elle n'évoque pas, elle, la façon dont elle a changé. Elle parle exclusivement de la façon dont lui a changé.
Mais lui a connu, on peut imaginer, beaucoup de traumatismes. On sait que quand ils sont rentrés, le silence a quand même beaucoup muré aussi, ces hommes qui ont vécu cette expérience de la guerre.
Alors le silence a pu mûrer dans le cadre familial, ça dépend. On a les deux solutions. On a parfois une véritable logorée verbale. Il y a des gens qui en parlent constamment. D'autres, à l'inverse, qui se murent dans leur silence. Mais en réalité, on voit bien que ce silence, il est totalement faux, puisque le traumatisme ressurgit à un moment ou à un autre. Et par exemple, lors des nuits, les cauchemars, on a des anciens combattants quand même de la Grande Guerre qui font des cauchemars jusqu'au milieu des années 70. Le professeur Louis Croc raconte qu'il reçoit dans les années 1960-70 des hommes qui, toute leur vie, ont fait des cauchemars, ont revécu des nuits d'épouvante, se jetaient de leur lit, etc.
Les effets de la guerre donc entraînent un véritable déséquilibre dans les relations conjugales. Est-ce qu'on peut parler de crise conjugale, Clémentine Vidal-Naquet?
Est-ce qu'on peut parler de crise conjugale? C'est compliqué de l'affirmer comme cela. On entre en guerre en pensant qu'on est en train de vivre une crise du mariage. Donc certainement que la guerre aura peut-être d'un côté renforcé cette crise du mariage qu'on imaginait exister avant la guerre et aura peut-être aussi permis un partage des intimités plus fort après la guerre.
RFI à Tbilissi, 102.9 FM.
Alors, on aime bien aller voir ailleurs en fin d'émission comment ça s'est passé aussi dans d'autres pays. Et tout de suite, nous allons aborder les couples dans la guerre en Russie avec Alexandre Zumpf. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes spécialiste de l'histoire de la Russie. Vous avez écrit une histoire sociale de la Russie. Votre dernier livre à paraître s'appelle « La Russie et la Grande Guerre » chez Perrin. C'est aussi bientôt, dans un mois. Alors, dans cet immense empire russe, Alexandre Zumpf, qui va de la Pologne orientale jusqu'en Sibérie, on compte combien d'hommes déjà mobilisés?
Alors, on compte 16 millions d'hommes mobilisés, ce qui est gigantesque, puisque c'est pratiquement autant que l'Allemagne et la France réunies.
Et après la guerre et également la révolution de 17, on imagine le grand chaos dans ce grand pays. Et qu'est-ce qui se passe à l'échelle des familles?
C'est assez compliqué puisqu'il n'y a non pas une seule mais deux révolutions en 1917. Il y a celle qu'on appelle de février qui a lieu au tout début mars. Et puis il y a celle d'octobre, en fait au tout début novembre. Et ces deux révolutions, l'une démocratique et l'autre communiste, bolchevique, ajoutent à la confusion d'une année marquée par une quasi-cessation des combats par l'armée russe, des désertions, une démobilisation d'abord spontanée et ensuite autorisée à partir de décembre 1917, et donc avec des retours pas du tout collectifs, mais au contraire très individualisés, et donc autant de situations pour les familles russes.
Mais alors, dans cet immense empire russe, est-ce qu'il y a aussi ces correspondances? Est-ce que les gens pouvaient s'écrire? Est-ce que le courrier fonctionnait pendant la guerre? Quel lien entretenait ces couples?
Alors, bien entendu, on n'est pas en France ou en Grande-Bretagne, donc les taux d'alphabétisation sont légèrement moindres en ville et très inférieurs à la campagne. Malgré tout, La censure postale existe et elle nous livre non pas tant les lettres elles-mêmes que des extraits de lettres, ce qui nous permet de juger à la fois de l'importance de cette correspondance et en même temps de sa teneur, puisque dès 1914, l'armée a cherché à connaître l'état d'esprit de ses soldats. Et donc on a des renseignements à la fois sur ce qui se passe au front, mais aussi des échanges qui continuent, une sorte de gestion à distance, notamment par les soldats paysans, de toutes les affaires agricoles, et des discussions qui sont parfois des ordres, qui sont parfois au contraire des compromis, faits avec celles qui désormais gèrent l'exploitation familiale, à savoir les femmes.
Oui. Une répartition des rôles aussi inversée, comme ce qui se passe en France ou en Angleterre, est-ce qu'on peut dire ça comme ça pour la Russie ?
Oui, alors il ne faut pas non plus imaginer que les femmes restaient les bras croisés. Elles ont un rôle très important dans les communautés rurales et dans l'exploitation familiale. Mais ce qui se passe désormais, c'est qu'elles sont les chefs des exploitations et qu'elles commandent à qui ? Elles commandent aux plus âgés et aux plus jeunes. Et c'est elles aussi qui négocient avec les institutions locales, les institutions économiques, mais aussi les institutions politiques, parce que toutes ces femmes démobilisées perçoivent, dès 1914, une pension d'État au titre de la compensation, parce qu'elles ont perdu le soutien de famille.
Donc des pensions et aussi une autre liberté possible, parce qu'il y a de nouvelles rencontres qui peuvent se faire. Est-ce qu'il y a des prisonniers des empires centraux en Russie ?
Eh bien oui, bien sûr, il y a à peu près 1 million de prisonniers austro-hongrois, donc avec toute la diversité ethnique de cet empire, qui sont envoyés très souvent, très profondément dans la Russie. On ne les laisse pas dans les zones de front, donc ils vont jusqu'en Sibérie. Et là, ce sont de jeunes hommes qui sont parfois mariés mais parfois célibataires, et qui rencontrent sur place ces chefs d'exploitation qui vont les embaucher, puisqu'il y a environ 600 000 prisonniers de guerre embauchés dans l'agriculture en 1916 en Russie, c'est assez énorme, qui viennent compenser ces bras qui ont été perdus, et des idylles naissent.
Et est-ce que ça prend du temps de se retrouver pour ces couples ? On imagine ce grand empire, compte tenu des distances que les hommes doivent reparcourir pour retrouver leur femme.
Oui, c'est effectivement le grand problème, notamment pour les permissions de 15 jours. Mais comme l'expliquent certains maris dans la correspondance à leurs femmes, ils sont dans des combats en Pologne, et le temps de revenir et de repartir vers le front prendrait les 15 jours, étant donné la désorganisation des transports, l'insuffisance des transports, et le fait aussi, il faut bien le dire, que les autorités ne sont pas n'aident pas vraiment les soldats à conserver le lien avec leur famille, en tout cas un lien direct physique.
Merci beaucoup Alexandre Zumpf de nous avoir confié ces histoires de couple en Russie. Je rappelle que vous êtes spécialiste de l'histoire de la Russie, avec un livre à paraître, La Russie et la Grande Guerre, chez Perrin.
Vos travaux les uns et les autres, Dominique Fouchard, Clémentine Vidal-Naquet, nous ont permis de comprendre l'histoire des gens, leur vécu. C'est un vrai choix de faire cette histoire des gens d'en bas.
Alors oui, c'est un vrai choix. C'est un vrai choix, c'est une histoire qui est grisante, qui est palpitante, qui est difficile. Je n'aime pas trop l'expression des gens d'en bas, moi. C'est l'histoire des gens. Et c'est vrai que cette approche par l'intime permet d'approcher des sentiments, d'approcher des émotions, des peurs.
Clémentine Vidal-Naquet.
Oui, moi j'ai été bien sûr très heureuse de travailler pendant 10 ans sur ce sujet. J'avais envie en fait de comprendre la première tragédie du XXe siècle à travers l'ordinaire, à travers le commun, et donc à travers aussi les histoires intimes. Il m'a semblé que la coexistence entre le tragique et l'ordinaire était ce qui façonnait l'histoire de ces couples, et c'est ce qui m'a le plus intéressé.
Et c'est pour ça que vous publierez donc tout bientôt à la rentrée votre thèse donc qui s'appelle
Couple dans la Grande Guerre, le tragique et l'ordinaire du lien conjugal.
Et également une anthologie.
Et une anthologie des correspondances conjugales chez Robert Laffont dans la collection Bouquins, correspondances conjugales dans l'intimité de la Grande Guerre.
On va guetter donc ces ouvrages tout bientôt. Merci pour votre présence ici. Merci également à vous, Dominique Fouchard. Vous avez travaillé sur la question du retour, des retrouvailles, et vous avez publié Le poids de la guerre, les poilus et leurs familles après 1918 aux presses universitaires de Rennes. Et ça, c'était l'année dernière. Cette émission est labellisée par la mission du centenaire et nous sommes partenaires du LABEX, écrire une histoire nouvelle de l'Europe, qu'on retrouve sur www.labex-ehne.fr. Merci à toute l'équipe, Alexandre Olivier à la réalisation et Florence Ponce pour le site internet de l'émission où vous retrouverez les photos, les archives et les ouvrages de nos invités. Comment 14, c'était la DER des DER. Votre série s'arrête aujourd'hui et nous avons été ravis de passer cet été avec vous.
Et un grand merci à toutes les personnes qui nous ont livré leur histoire de famille tout au cours de l'été et à tous les historiens qui se sont prêtés à ce jeu bien difficile de croiser les petites histoires et la grande histoire.
Samedi prochain, Anne-Cécile Bras revient avec C'est pas du vent. Très bonne rentrée à tous, portez-vous bien.